Bonjour à tous et bienvenue dans ce Suisse Bliss. Nous sommes le 14 janvier 2024. Oui, déjà le 14 janvier s'affiche. J'ai l'impression qu'on était encore en train de mettre les boules de Noël il y a quelques jours en arrière. Enfin bref, ça continue. Alors la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que peu importe les mauvaises nouvelles, hein, on veut croire à une baisse des taux, on veut croire que ça ira mieux demain, on veut croire que les choses iront dans la bonne direction. Le marché refuse catégoriquement de rendre les armes. On va le voir sur ce qui s'est passé un petit peu cette semaine. On l'a déjà vu dans les Morning Bull Live durant la plupart de la semaine. Il n'y a pas eu que des bonnes nouvelles, bien au contraire, il y a eu pas mal de remises en question qui ont été faites cette semaine. On voit aussi que les publications qui arrivent gentiment ne sont pas non plus exceptionnelles. On voit également qu'il y a les boîtes qui vont publier dans quelques semaines, qui commencent à faire des espèces de profit warning, parce que ça va pas rigoler autant que ce qu'on attend. La grande question à laquelle on va devoir répondre ces prochaines semaines, c'est de savoir si on a anticipé beaucoup trop de choses, ou finalement est-ce que la réalité nous convient et qu'on avait largement anticipé tout ça. Vu notre qualité de visionnaire dans laquelle nous sommes depuis 2 mois maintenant, il serait surprenant que l'on se fasse dépasser par la réalité. Néanmoins, il y a beaucoup de choses à dire qui sont relativement négatives, mais en tout cas, peu importe comment on peut l'interpréter, comment on veut l'interpréter, peu importe si on veut être du côté obscur de la force, ou autrement dit du côté bearish de la force. Comme je vous l'ai expliqué dans le Morning Bear Live de vendredi, forcément on peut être négatif par rapport à ce qu'on voit autour de nous, mais une chose qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, c'est vrai que l'ensemble de la planète, c'est pas top top top, l'ensemble des news économiques de la planète, c'est pas top top top, mais nous, le marché, on s'en fout complètement, parce que Wall Street, c'est Wall Street, et Main Street, c'est Main Street. Donc ce qu'il faut retenir cette semaine, c'est que peu importe comment est-ce qu'on veut prendre les choses, peu importe les nouvelles qui sortent, si elles sont négatives ou prudentes, ou nous disent de nous méfier de l'avenir, nous ce qu'on veut c'est monter, donc le marché c'est ce qu'il fait. Alors c'est clair que sur la performance hebdomadaire c'est pas monstrueux, mais quand on voit un petit peu les chiffres qui sont sortis, on peut quand même se dire qu'on a été vachement balèze cette semaine. Donc la thématique de la semaine, bah, je vous le cache pas, c'est les chiffres de l'inflation. Donc on en a parlé, reparlé. La semaine dernière, donc vous avez vu jeudi passé, c'était plus fort qu'attendu, l'inflation est en hausse, l'inflation repart à la hausse aux États-Unis comme en Europe, mais pour l'instant, la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que les chiffres du PPI étaient un petit peu moins pires, donc on est serein pour la suite des événements. Certains disent même que les relativement bons chiffres du PPI ont compensé les mauvais chiffres du CPI, ce qui font que finalement tout va bien. Donc on peut continuer à espérer que la Fed baissera les taux au mois de mars. Ça, c'est la grande thématique du moment. C'est est-ce que nos prévisions qu'on a commencé à se mettre dans la tête dans le courant du mois de novembre, est-ce que nos prévisions de voir baisser les taux en mars vont être toujours valables et fonctionneront toujours? Ça, on n'en sait rien pour l'instant, mais on essaie de s'accrocher à ça. Il faut savoir qu'avant les chiffres du CPI, on était à plus de 70% d'optimistes qui pensaient qu'on allait voir une baisse des taux en mars. Après les chiffres, on avait baissé quasiment de la moitié, donc il y a de moins en moins de gens qui y croient, mais néanmoins, même s'ils y croient plus, ils n'osent pas vraiment vendre le marché. C'est vrai que si aujourd'hui, vous regardez les résistances des indices principaux et que vous voulez shorter pour essayer de jouer à la baisse, eh bien ça va rapidement aller contre votre sens, votre sentiment, et les shorts se font systématiquement massacrer pour l'instant. Donc il n'y a pas forcément de force vendeuse suffisante, ou en tout cas de négativisme suffisant pour pouvoir continuer à faire baisser les marchés. Donc forcément, quand ça baisse pas, ça monte. Du coup, la semaine se termine relativement bien. Et franchement, quand vous regardez le package des chiffres du CPI américain, pour qu'on arrive à terminer la semaine de manière aussi bonne, eh bien, c'est quand même relativement exceptionnel. Et ça, faut quand même le signaler. Donc pour l'instant, ce qu'il faut bien comprendre et résumer, en fait, c'est que le marché est coincé dans cette zone qui se dit « Oui, on aimerait bien voir un ralentissement du marché, parce que si le marché ralentit, du coup, la Fed pourra baisser les taux. » Mais en même temps, on n'a pas envie de voir le marché qui ralentit, parce que si le marché ralentit, ça veut dire qu'on va commencer à parler récession, et puis on n'aime pas parler récession. Résultat, on est coincé un peu dans cette espèce de zone entre les deux. On aimerait bien que ce soit moins bien, mais en même temps, si c'est moins bien, eh bien, ça sera pire, et ça va commencer à peser sur le moral des investisseurs. Donc, on essaie de trouver cette capacité à continuer. On verra après sur les graphiques que pour l'instant, on échoue systématiquement sur les niveaux de résistance sur le S&P 500, sur les records historiques. On voit que l'Europe veut s'accrocher encore aux wagon pour croire que ça va continuer à monter. Pour l'instant, il y a cet optimisme latent qui nous permet d'être relativement bien disposés. Et la prochaine question à laquelle on va devoir répondre, c'est les chiffres trimestriels. Oui, parce que vous l'avez déjà vu, relativement bon chiffre au niveau des bancaires vendredi. Hein, JP Morgan a publié des chiffres exceptionnels. Historiquement, je crois que c'est le meilleur revenu de toutes les banques américaines de l'histoire. Donc les mecs, je sais pas comment ils font, mais ils sont toujours aussi forts. Ça cartonne au niveau des bancaires. Heureusement, parce que quand on voit la performance des bancaires américaines ces derniers temps, on pouvait se dire, s'ils se plantent, ça va faire très très mal. Mais non, tout va bien du côté des bancaires. Mais ça sera l'axe de réflexion de ces prochains temps, les publications trimestrielles. Et les publications trimestrielles, bah, donc elles ont commencé vendredi. Ça va augmenter encore plus, évidemment, en termes d'activité. Il y aura du monde qui vont publier. Et ce sera un petit peu le juge de paix pour la suite des événements. Et ça nous montrera si ralentissement il y a ou pas. Puisque l'on parle d'inflation, eh bien, on notera quand même qu'en Suisse, hein, eh bien, le CPI est sorti à 1,7, hein, donc il y a un retour de l'inflation après avoir été à 1,4 le mois précédent. Bon, il n'y a pas de quoi partir en courant parce que quand on voit 1,7% d'inflation par rapport à ce qui se passe ailleurs, on peut s'estimer relativement content, mais il faut quand même le savoir, en Suisse, l'inflation est également remontée et est également repartie à la hausse. Et puis après, encore deux choses qu'il faut quand même bien retenir puisqu'on parle beaucoup d'inflation. Une des composantes de l'inflation, bien sûr, il y a l'effet taux d'intérêt, mais l'autre composante derrière, c'est le pétrole aussi, l'énergie. Alors l'énergie est toujours très très importante et jusqu'à maintenant, ça allait un petit peu mieux parce qu'on avait vu un ralentissement massif au niveau du baril. Et là, depuis quelques jours, avec la crise de la mer Rouge, dont on parle relativement peu dans les médias économiques, eh bien, le pétrole est en train de remonter gentiment à des niveaux qui font parfois un tout petit peu peur. Alors, vous voyez que le repli de vendredi soir était assez spectaculaire sur le baril, puisqu'on est allé chercher les 75 quasiment pour revenir maintenant à 72,68. Mais l'un dans l'autre, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'à très très court terme, eh bien, on est reparti quand même dans une tendance haussière sur le baril. La raison principale de cette retour à la hausse sur le baril, eh bien, c'est que bah, vous avez vu, hein, les rebelles outils sont en train de tirer sur tout ce qui bouge dans le canal qui remonte au canal de Suez, dans la mer Rouge devant l'Égypte. Résultat, les Américains s'en mêlent, les Anglais s'en mêlent, ils ont été bombardés le Yémen pour aller massacrer les rebelles outils, en tout cas leur base de lancement de drones. Bref, c'est quand même une espèce de guerre qui se déclare là-bas. Et ça crée des tensions inévitables dans la région, ce qui fait que ça n'aide personne. Et vous voyez que vous avez ce baril de pétrole qui repart à la hausse. Alors, bien replié vendredi, ouf, j'ai envie de dire. Mais si ça venait à casser ce triangle à la hausse, alors là, je vous dis pas où est-ce qu'on pourrait aller de nouveau. Première étape, la moyenne mobile des 200 jours. Mais alors après, la porte sera ouverte à toutes les fenêtres, surtout s'il y a trop de tensions, surtout si l'Iran venait à rentrer dans cette crise également, ce qui n'est a priori pas le cas pour l'instant, mais on ne sait jamais. Et puis alors, on terminera avec l'annonce de la semaine, hein, l'approuval du Bitcoin. Alors oui, voilà, c'est bon, on va avoir des ETF Bitcoin, en veux-tu, en voilà. Je crois qu'il y en aura 11 à terme, de toute manière. Il faudra choisir le meilleur, celui qui paye le moins, qui vous coûte le moins en termes de frais. Et néanmoins, comme toute l'annonce était déjà faite dans le marché, comme tout était déjà dans les prix, eh bien, il y a eu, aux surprises, une espèce de prise de profit sur le Bitcoin. Alors, j'y connais rien, je ne suis pas forcément le Bitcoin, mais on voit tout, quand même qu'il y avait un bon moment qu'on était chaud patate sur l'histoire. Maintenant, c'est sorti. Certains commencent à dire que certains gros fonds avaient déjà commencé à acheter des bitcoins pour pouvoir anticiper l'annonce. C'est monté beaucoup entre deux. Et avant que les clients viennent tous souscrire à ces fonds, ils ont commencé à prendre les profits pour pouvoir de nouveau les racheter pour créer leurs fonds. Bref, du coup, beaucoup de mouvements sur le bitcoin, beaucoup d'interrogations. Mais ce qu'il faut tenir l'un dans l'autre, c'est que logiquement, très logiquement, il va y avoir ce halving au mois d'avril qui est censé aider le bitcoin. Mais dans un premier temps, on peut s'attendre à une faiblesse, puis ensuite une opportunité d'achat pour aller jouer le prochain move qui va voir le Bitcoin recasser les 50 000 $. Et comme tout le monde le voit à 100 000 ou à 200 000, de toute façon, l'avenir est plutôt rose. La seule chose qu'il faudrait peut-être faire, c'est pour ceux qui veulent le jouer, c'est construire des positions en DCA, donc acheter régulièrement à date fixe des petits montants en Bitcoin pour moyenner, pour jouer cette tendance de fond qui a l'air de s'envoler, mais encore, ça reste que de la présomption ou de l'espoir de ce côté-là. Si on regarde les performances de la semaine, alors explosion du Nikkei qui est à des niveaux qu'on n'avait plus vu depuis que j'ai commencé dans la finance, c'est-à-dire plus de 34 ans, plus 6,59 sur le Nikkei. Le Nasdaq repart à la hausse, plus 3%. Le SOX aussi, les records battus par Nvidia en permanence ont bien aidé. Le S&P 500 qui finit à des niveaux relativement élevés, mais qui n'arrive pas à casser ses résistances historiques. Le DAX et le CAC qui s'en sortent comme ils peuvent. Le SMI qui fout pas grand-chose comme d'habitude avec 0,36% de hausse. Et puis, dans le côté des perdants, eh ben, prise de profit sur le Bitcoin. Comme d'habitude, des mauvais chiffres économiques en Asie qui pesaient sur la Chine et sur Hong Kong, bien sûr. Et puis, repli du pétrole pour l'instant qui est à 1,42, mais qui reste extrêmement volatile avec, comme je viens de vous l'expliquer il y a quelques instants, avec des tensions assez tendues, c'est pas mal ça, avec pas mal de stress au niveau de la situation dans la région de l'Égypte et de la mer Rouge, qui pourrait encore donner beaucoup de volatilité sur le baril. Et puis l'or, l'or pour l'instant, pas grand chose à dire de ce côté-là. Les performances de la semaine, l'Onza qui bénéficie d'un regain d'intérêt, Alcon qui a publié des bons résultats pour un nouveau médicament, on va y revenir. Logitech qui est notre tech du marché qui en profite, qui revient à des niveaux qu'on n'avait plus vus depuis bien longtemps. Et puis dans les losers, Sika qui a sorti des chiffres, des records au niveau de leurs chiffres, mais qui ont déçu les attentes, donc forcément repli sur Sika. Et puis autrement pas mal de downgrade, comme on va en reparler dans quelques instants. Du point de vue technique, notre ami le SMI est toujours dans son trend ascendant, hein, donc on va pas s'inquiéter de ce côté-là. Comme vous le voyez ici, eh bien on a cette zone-là qui tient toujours. Pour l'instant, malgré quelques mouvements un petit peu volatiles, le gros candlestick rouge que vous voyez ici, eh bien, c'est simplement l'annonce du CPI l'autre jour aux États-Unis. Néanmoins, derrière, le S&P a terminé plus haut, donc encore une fois, nous ont mis à la pâtée pour pas grand-chose. Mais la tendance est là, la tendance est haussière, donc pour l'instant, pas grand-chose à dire. C'est pas le truc le plus excitant, mais ça monte. Et tant qu'on reste bien établi à ces niveaux-là, c'est plutôt encourageant. Et puis, comme vous le voyez ici, croisement des moyennes mobiles des 50 jours et 200 jours, donc comme on le sait tous, eh bien, c'est une Golden Cross, et c'est censé être bullish pour l'avenir du marché suisse sur le moyen long terme en tous les cas. Et quand on voit le retard de certaines valeurs, on peut largement l'imaginer en tous les cas. Je prends le CAC 40 comme exemple, mais le DAX se comporte plus ou moins la même chose. Bah vous voyez, on a fait des plus hauts historiques, on a baissé depuis 10 jours, on revient sur cette moyenne mobile des 50 jours, on tient le coup et on finit la semaine relativement bien. Mais alors les volumes et la volatilité est extrêmement basse sur le CAC 40. Il va falloir qu'on revienne sur les 7560, 570 pour pouvoir commencer à retrouver un petit peu d'optimisme en cassant cette résistance au-dessus. Mais sinon, ça risque d'être très très pénible pour l'instant en termes d'activité. Là encore, les résultats seront probablement le juge de paix sur le CAC 40, sur le DAX et sur tous les indices du monde d'ailleurs. Puisque l'on parle des indices du monde, le S&P 500 qui termine sa semaine quasiment au plus haut des plus hauts, n'est pas parvenu à casser les résistances historiques pour l'instant. La seule chose qui est un poil inquiétante, mais vraiment, je ne veux pas être non plus trop négatif parce qu'on me le reproche beaucoup trop ces temps, donc je vais être constructif. Mais l'un dans l'autre, vous voyez quand même qu'à ces niveaux-là, les trois dernières séances, on a eu un bon rebond. Puis, on a réussi à s'en sortir avec le CPI, ce qui était une excellente nouvelle. Mais on a quand même des candlesticks de renversement de tendance. Alors, si on se base là-dessus, la tendance est plutôt haute. Donc, ça veut dire qu'à terme, on pourrait quand même rebaisser un petit peu. Surtout qu'on a l'impression que dès qu'on arrive sur les 4800 sur le S&P 500, les vendeurs sont quand même extrêmement présents. Alors, j'aimerais bien que ça casse et j'aimerais bien que ça continue à monter encore et encore. Comme je vous l'ai dit en introduction, de toute manière, ce marché n'est plus un marché qui est lié à ce qui se passe dans l'économie réelle et dans le monde réel. C'est un marché qui est géré par les flux et l'optimisme artificiel de certains investisseurs. Mais l'un dans l'autre, on voit quand même qu'à ces niveaux-là, pour l'instant, on a un tout petit peu de peine à aller chercher plus haut. Le Nasdaq, même chose. Hein. Alors, on termine très bien notre semaine, ça, d'accord. Mais là aussi, depuis deux jours, on hésite massivement sur le Nasdaq. Et on n'arrive plus, on monte, on va bien, mais on n'arrive plus à aller beaucoup, beaucoup plus haut. Toujours pas mal de questions et de pressions, entre guillemets, sur les valeurs du Magnificent Seven. On n'arrivera pas à aller beaucoup plus haut sans eux. On sent que pour l'instant, vu la performance 2023, les gens ont de la peine à charger encore le bateau. Même si Microsoft est devenue la plus grosse capitalisation boursière américaine la semaine dernière, en passant devant Apple, On sent plutôt que c'est Apple qui baisse et Microsoft qui va moins mal, qui permet finalement de faire cette compensation-là. Pour l'instant, on va avoir besoin vraiment de beaucoup d'aide de la part des Magnificent Seven encore, ou alors vraiment que le reste du marché commence à se réveiller. Mais pour ça, il faudra des catalystes. Et les catalystes, on les aura probablement durant la période de la publication des résultats qui vont commencer la semaine prochaine. Pour autant qu'il soit au-dessus des attentes, et les attentes sont relativement élevées. Vous voyez que le semi-conducteur index hésite aussi, hein, même typologie que le Nasdaq. Pour l'instant, il faudrait qu'on vienne recasser les 4240 sur le SOX pour dire c'est bon, on est reparti comme en 40. Là aussi, il y a un gap à combler qu'on peut se dire on va aller le chercher. Est-ce qu'on va réussir à trouver la niaque pour aller en-dessus? Là aussi, résultats seront la juge de paix. Dans les vedettes de la semaine, on notera qu'il y a SGS, Geberit, Swatch, SIG et Swisscom qui ont été downgradés par plusieurs brokers. Donc on est en phase de début d'année, les gars ils ressortent leur spreadsheet, ils refont leurs calculs et ils en profitent pour dire « Ouh là je suis pas à l'aise, bam !» Un downgrade par ici, un downgrade par là. Donc quand vous regardez la performance de certaines valeurs, eh bien celles-ci hier, enfin cette semaine en tous les cas, ont pas mal cotisé parce que downgrade sur downgrade. Donc voilà, alors c'est pas non plus des trucs massifs, mais on sent quand même une grosse prudence qui est en train de se mettre en place et que les analystes sont nettement moins optimistes que ce qu'ils ne l'étaient il y a quelques semaines. Donc quelques réajustements de price target, comme on dit, dans le métier. Mais il n'y a pas que du mauvais, puisqu'on notera quand même que Temenos et Lonza ont été upgradés. D'ailleurs, la performance canonissime de Lonza cette semaine est due à des upgrades. Et Temenos, pour l'instant, c'est pas stratosphérique, mais Temenos, non seulement ils ont été upgradés, mais en plus de ça, ils ont signé un contrat avec Deloitte. Et puis aux États-Unis, qui leur permettra d'accéder à toutes ces boîtes financières qui ont besoin de leurs services de software. Donc ça devrait les aider à, comme ils disent techniquement, à accélérer la pénétration du marché américain ces prochaines années. Donc une nouvelle plutôt constructive sur Temenos. Temenos qui finissait relativement bien la semaine, mais qui mérite peut-être un petit peu plus d'attention avec ces bonnes nouvelles qui sont en train de lui tomber dessus. Si vous regardez le graphique de Temenos, hein, vous voyez que ces bonnes nouvelles lui ont permis de terminer la semaine au plus haut, puisqu'on termine quasiment à 80 francs suisses. Les upgrades aussi ont bien aidé cette semaine, donc on part sur un gain net de quasiment 10 balles sur toute la Suisse. Et puis là, comme vous le voyez sur le graphique, ça ressemble, on va pas dire que ça ressemble à Nvidia, mais disons qu'on a l'impression qu'on a hésité pendant un moment et que là on est en train de repartir à la hausse. Alors on va faire, non, on va pas faire comme ça, chercher celui-ci et puis ensuite on va remonter sur celui-là. Vous voyez que le point extrême ici à 82 sera assez intéressant à observer. Si on arrive à passer en dessus ces prochains temps, eh bien on pourrait aussi voir une accélération de Temenos à la hausse. Sans oublier que à ce niveau-là, là que vous voyez en 2021, je rappelle quand même qu'il y a pas mal de fonds d'investissement qui étaient chauds patates pour faire un takeover sur Temenos. Donc on est juste la moitié moins cher. Donc qui sait, peut-être que certaines choses vont se bouger ces prochains temps. Novartis, oui, encore Novartis, on parle beaucoup de Novartis ces temps. La première chose de Novartis, c'est tout d'abord qu'ils ont fait des grosses avancées sur un médicament contre la leucémie. La demande d'approval devrait arriver tout soudain, donc ils sont dans le côté positif de ce côté-là. Un nouveau truc dans le pipeline. Et puis l'autre chose, c'est que on a eu des rumeurs durant la semaine comme quoi ils étaient sur le point de racheter une boîte qui s'appelle Cytokinetic, rumeur annoncée par le Wall Street Journal. Et puis, en fin de semaine, la rumeur a été démentie par le même Wall Street Journal sur Cytokinetic en disant qu'apparemment, il semblerait, on s'autorise à penser que le management de Novartis n'était plus en train de négocier avec le management de Cytokinetic. Alors, ce qui est assez intéressant maintenant, c'est de regarder le graphique de Cytokinetic. Alors, Cytokinetic, c'est une boîte américaine qui fait de la biotechnologie. Alors, vous rassurez-vous, je la connaissais pas avant de vous en parler ce matin, mais peu importe. Mais ce qu'il faut noter quand même, c'est que vous voyez le graphique, hein, c'est quand même assez sympa. Vous avez quand même le 26 décembre un truc qui vaut 45,95. On peut même revenir en arrière. Hein. Le 19 décembre, ça vaut 33 dollars. Ok, direct derrière, le titre explose. Hein, on passe de 46 à quasiment en un jour à 83. Donc là, ces premières rumeurs arrivent. On en parle encore en début de semaine sur le Wall Street Journal. On l'a fait monter à 108 parce que c'est quand même vachement cool. Le artiste, ils vont certainement payer 150 dollars. Et puis là, donc le Wall Street Journal en parle. On va chercher un pic tout en haut. Et puis après, le Wall Street Journal, il démonte. Hein, d'accord? Bam! Voilà. Alors, il n'y a rien de spécial. Rien n'a été confirmé, infirmé, blablabla, etc. Et ce qui est assez hallucinant quand même, c'est que sur deux nouvelles d'un journal, vous arrivez à faire des trucs pareils et que finalement rien ne se soit passé à la fin. On peut quand même se poser des questions On sait bien que la SEC est occupée à faire d'autres choses en ce moment, mais en tous les cas, c'est juste pathétique ce qui s'est passé sur Cytokinetics et probablement que ça n'est pas terminé. Novartis, bon, Novartis, ça n'a pas changé grand-chose pour eux, hein, mais ça continue de monter par rapport aux bons commentaires des derniers temps. On a été combler le gap ici. Comme je vous le dis souvent sur Novartis, c'est un titre qui fait du range. Donc voilà, le range, il se situe là, dans la zone des 93. Là, on est 91. Je pense que sur une accélération, j'aurais plutôt tendance à vouloir jouer la prise de profit et jouer un petit retour. Et si elle venait se reposer, elle a laissé un gap ici. Donc pourquoi pas revenir ici sur les 86-80. Donc si je devais faire un scénario, j'attendrais qu'elle monte à un nombre 2,5. Je vendrais là. Je rachète, j'attendrai qu'elle baisse de nouveau pour combler le gap ici. Et je rachèterai pour jouer le prochain move à la hausse. Comme ça, présenté, enfin présenté comme ça, comme vous pouvez le voir, la bourse est quand même vachement facile. Alcon, alors on notera rapidement, alors là je vais quand même lire, je suis désolé de quitter la caméra des yeux pendant un bref instant, mais il faut quand même lire le truc. Donc Alcon a démontré qu'il avait développé un nouveau produit qui s'appelle le AR-155-12, qui améliore la production de larmes pour étancher, pour éviter les problèmes de sécheresse oculaire. Bref, donc du coup, ils vont demander une mise d'autorisation sur le marché aux États-Unis d'ici mi-2024. Donc du coup, l'action a pris 3,44% à la clôture. Voici Alcon. Donc comme je vous en avais parlé, mais on voyait qu'à l'époque, on avait quand même une zone de consolidation ici, sur les bas, 62. Visiblement, ça marchait plutôt pas mal. La grande question maintenant, c'est de savoir si on peut démarrer quelque chose de viable ou est-ce qu'on va venir rechercher la moyenne des 50 avant de pouvoir entamer notre trend suivant sur Alcon. Sika a annoncé un chiffre d'affaires record de 11,24 milliards de francs pour l'année 2023. Un chiffre d'affaires record. Mais, ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que les analystes attendaient mieux que ça. Donc forcément, c'est une déception. Et comme c'est une déception, eh bien le titre s'est fait taper dessus sur la publication en cours de semaine dernière. Et donc là, encore une fois, ce qui est génial, c'est que vous entendez une boîte qui vient vous dire qu'ils s'en sont bien sortis, qu'ils ont fait un record 2023. Et vous avez les stars de la finance qui sont assis le cul sur une chaise derrière leur bureau à écouter et à donner leur avis alors qu'ils n'ont jamais monté une boîte de leur vie. Et ils arrivent pour vous dire « Oui, mais nous, on aurait espéré un peu plus !» Et bam, le titre se fait taper sur le groin quand même. Voilà, donc Sika donc, s'est pris une tôle sur les résultats ici. Bon, on avait déjà visiblement anticipé pas mal de trucs depuis un moment, mais voilà, retour à la case départ. Grosse déception, clôture juste sous la moyenne mobile des 200 jours. Alors, est-ce que les analystes vont avoir raison d'avoir été un petit peu déçus? En tous les cas, quelque part, je pense qu'il faudra trouver un niveau d'entrée pour revenir sur Sika. Moi, je parierais sur les points bas qu'on a eu en avril 2023, donc ça nous mettra autour des 230. Ça, c'est clairement une exagération à mon sens, mais enfin, peu importe. Donc voilà, à surveiller attentivement, parce que l'un dans l'autre, si on regarde vraiment empiriquement, eh bien, c'était comme une belle année pour Sika. Et je serai le manager, je serai un tout petit peu frustré de ce qui s'est passé cette semaine. La recommandation de la semaine, c'est Bank of America qui ajuste son price target sur Nestlé. Alors, je vous rassure, ils restent sur buy. Hein. Aujourd'hui, ils ont un target à 126 francs suisses. Aujourd'hui, en début de semaine, ils avaient un autre target qu'ils ont modifié. Il était à 127. Donc les mecs, ils ont fait une modification, ils ont fait une publication pour dire oui, mais là, Nestlé, on s'attend plus à qu'elle aille à 127, mais seulement à 126. Ah là, ça va nous changer la vie. Je vous dis même pas comment. Donc voilà, donc grosse annonce massive de Bank of America qui a donc couper ses objectifs sur Nestlé de 1 franc, de 127 à 126. Néanmoins, ça reste pour eux le meilleur play dans la food en Europe. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Je trouve absolument génial. Encore une fois, je me dis, les gars, ils ont juste laissé leur spreadsheet Excel en panne ou en vacances, pendant les vacances, et ils arrivent aujourd'hui, ils remettent en marche. Ils ajustent avec les cours des monnaies. Ils disent, ah oui, ça change tout. À la place de 127, on va faire 126. Soyons précis, soyons précis. C'est important, la précision en Suisse. Ah, vous voyez l'impact sur le graphique de Nestlé qui est quasiment nul. Néanmoins, si ils ont raison et qu'on retourne cette année à 126 ou à 127, ce sera de toute façon pas mal. Je suis pas sûr que ça change grand chose sur la performance de votre portefeuille qu'on aille à 126 ou à 127 sur Nestlé. Barry Calbo, alors Barry Calbo, le chocolat, l'UBS a fait un downgrade massif. Ils sont passés de buy à sell sur Barry Calbo. Bon, vu la tronche de Barry Calbo depuis quelques temps, il était temps de passer sur vente parce que c'était vraiment un énorme falling knife. L'UBS est très inquiète par rapport à tout ce qui est prix du cacao, les matières premières, l'augmentation du prix des transports, blablabla. blablabla, vous connaissez l'histoire. Hein. Là aussi, la thématique de la mer rouge, les bateaux qui doivent faire des détours. Bon, en même temps, le cacao vient pas de là-bas, mais peu importe, ça a fait une augmentation du prix des transports chez tout le monde. Les matières premières sont quand même globalement en hausse, même si on nous dit que tout va mieux au niveau de l'inflation. Donc voilà, Barry Calbo est passé sur Buy à sell. Alors au-delà du fait que ça est sur Buy à sell, je vous l'ai déjà dit, quand l'UBS fait un downgrade aussi massif, ça ne dure pas un jour, parce que tous les comptes vont devoir être corrigés et tout le monde va devoir liquider ses positions à l'intérieur de la banque. Et ça fait du monde, surtout que souvenez-vous, depuis quelques temps, l'UBS est encore plus grosse qu'avant. Voilà, vous avez le graphique de Barry Calbo sous vos yeux. Donc voilà, hein, si on regarde juste tout simplement depuis les hauts, de 2021 à 2366, nous voici donc à 1270, et là l'UBS donc décide de passer sur sell sur Barry Calbo, donc effectivement c'est un falling knife, hein, depuis le temps qu'on baisse là, je sais pas où c'est que ça va s'arrêter, mais c'est pas super rassurant, les gars, si vous voulez faire quelque chose de bien, il va falloir commencer à manger du chocolat. Le graphique que je vous montre à l'instant, c'est Comax qui a fait un profit warning la semaine dernière à l'approche des résultats. On approche donc de la saison des résultats et vous savez que les sociétés ont le droit d'annoncer que ce sera moins bon que prévu jusqu'à 3 semaines à l'avance. Donc Comax a déjà anticipé, ils ont prévenu que ce serait compliqué. Donc 11% de baisse sur Comax comme vous le voyez ici, une sale semaine. Et ça promet d'être encore un peu plus shaky ces prochains temps sur Comax. Une boîte qu'on ne suit pas beaucoup mais qui a fait un carton la semaine passée, c'est Santerra. Alors Santerra, il faut savoir qu'ils ont reçu l'homologation pour un produit qui s'appelle Lagamrée, le Vamorolone, dans l'indication contre la myopathie de Duchenne. Donc le produit est déjà autorisé en Europe et aux États-Unis, mais quand même ça a été une bonne nouvelle, le titre a pris 17%, je vous montre pas le graphique parce que de toute façon sur ce genre de boîte ça change pas grand chose, mais quand même 17%, c'était donc une bonne nouvelle sur Santerra la semaine dernière. Et puis on terminera avec ce tour d'horizon des vedettes de la semaine avec Partners Group. Alors Partners Group qui ont subi la foudre des investisseurs, parce qu'ils n'étaient pas contents malgré l'augmentation de la masse sous gestion. Bref, ils ont vu un tassement de la demande des clients, donc avec des commentaires relativement prudents, et aujourd'hui on n'aime pas trop les commentaires prudents, donc voilà, résultat de Partners Group plutôt encourageant, mes commentaires plutôt prudents, et c'est surtout le plutôt prudent qu'on va retenir, et c'est d'ailleurs ça qu'on va regarder ces prochains temps, le côté plutôt prudent, puisque les résultats trimestriels vont arriver maintenant, là, tout de suite. On va avoir du sport du côté des résultats trimestriels, on l'a vu déjà rien qu'en Suisse. Je vous laisse imaginer ce qui pourrait se passer aux États-Unis en fonction des résultats des uns et des autres. On va bien sûr avoir les gros qui vont nous arriver dessus ces prochains temps. Là, on va commencer avec des Netflix, on va commencer avec des Tesla pour s'échauffer un petit peu, puis après, on aura les Magnificent Seven qui vont nous changer la vie, bien sûr, et nous donner la tendance de ces prochains mois. En attendant, la semaine prochaine, on va s'occuper de la confiance du consommateur et puis des retail sales pour voir si les gens consomment quand même toujours malgré la crise semi-économique dans laquelle nous sommes. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, nous, à Wall Street, on est toujours capable d'interpréter les choses comme ça nous arrange. On va voir si la semaine prochaine, on arrive à casser les résistances. Ce sera l'enjeu de cette semaine qui vient. Plus vraiment d'énormes chiffres à attendre, mais par contre, la thématique des trimestriels, on aura le temps d'en causer dans les prochains Morning Bull Live. Moi, d'ici là, je vous recommande de vous abonner à la chaîne Swissquote en français. Merci d'être d'ailleurs aussi nombreux, puisqu'on a passé la barrière des 35 000 followers. Gentiment, on va en direction des 40 000, puis ensuite, on va aller chercher les 50 000, bien sûr. Merci d'être là régulièrement, merci à tous, vraiment. Mis à part ça, likez cette vidéo, partagez cette vidéo, et puis n'oubliez pas de venir me retrouver demain matin, lundi, pour entamer la semaine avec un nouveau Morning Bull Live. Merci d'avoir été avec moi ce dimanche pour ce Swiss Bliss, et on se voit demain. Bye bye, bon dimanche.